Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, on va retrouver avec notre histoire aujourd'hui notre ami Globetrotter. Et là, il arrive, ou il arrivait, à Abu Dhabi. Avantage pour un visiteur, Abu Dhabi est en bord de mer et les hôtels sont sur des îles. Ça limite la zone de recherche. Car comme souvent dans les pays du Golfe, il y a très peu d'indications. La plupart des grands hôtels étaient divisés en deux parties. L'une luxueuse, richement décorée, avec salle de danse et alcool. L'autre plus fonctionnelle et moins onéreuse, mais sans alcool. J'ai passé 5 jours dans la partie luxueuse, ce qui me donnait accès à la salle des super petits déjeuners. Le reste du temps, j'étais hébergée dans la partie fonctionnelle, mais je n'avais droit qu'au petit-déj ordinaire. Heureusement, j'avais été prévenue qu'il n'y avait aucun contrôle. Il fallait juste oublier la pièce sous l'assiette de temps en temps. Le personnel, c'était des Érythréens, quelques Européens aux fonctions de chef et beaucoup de Philippins, surtout des femmes. Privées de leurs papiers, elles devaient rester 2 ou 3 ans sans rentrer au pays. L'hôtesse de nuit dans notre bâtiment était si triste lorsqu'elle se savait seule que nous sentions obligés de lui faire discrètement des petits cadeaux qu'elle dissimulait prestement. Abu Dhabi est repoussé par l'Arabie Saoudite vers le bout de la péninsule et coincé entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Le pays partage avec Oman cette pointe, mais Oman, divisé en 2 parties, ferme l'extrémité de la péninsule. Le président égyptien, à l'époque Gamal Abdel Nasser, fâché de recevoir de multiples demandes d'indépendance des roitelets locaux, leur a enjoint de se fédérer. Ainsi ont été créés les Émirats arabes unis. La façon la plus simple d'identifier les différents territoires est d'aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Abu Dhabi, l'émirat, de loin le plus grand et aujourd'hui, grâce au pétrole, le plus riche, il a comme Sharjah la particularité de traverser la péninsule du golfe Persique au golfe d'Oman. Puis Dubaï, l'émirat commerçant qui a toujours échangé avec l'autre côté du golfe Persique, avec l'Iran, l'Afghanistan et même avec les Indes. Sharjah qui vit de commerce et de pétrole. Ajman, incrusté dans Sharjah, bien connu des philatélistes. Oum Al-Quwain, pays de pêche et de culture. Ras Al-Khaïma, vit aussi de la mer, de la culture et de l'élevage. Ceci est une vue simplifiée. D'autres découpages et contestations agitent cette union. Aujourd'hui, des autoroutes et des zones industrielles parcourent le pays. J'étais là pour former en 3 semaines les techniciens à l'usage d'un matériel électronique. Il y avait 2 types d'élèves, les citoyens et les mercenaires. S'appellent ainsi les Marocains envoyés par leur roi pour servir les pays riches. Abu Dhabi est un pays très riche. Le roi du Maroc salariait les mercenaires et percevait leurs soldes. Il y avait une grosse différence. Mais les mercenaires touchaient une paye 3 fois plus élevée que celle qu'ils auraient reçue dans leur pays. De plus, ils n'avaient pas de véritable limite d'âge. Enfin, très compétents en électronique, ils étaient très demandés par les civils. Ils arrondissaient ainsi leurs pelotes. Avant d'enseigner, j'avais été pendant 1 mois en formation chez l'avionneur. Je connaissais le matériel, mais n'en avais pas une grande pratique. Les commerciaux avaient vendu une formation de 3 semaines. Faut dire que les commerciaux ont l'habitude de vendre quelque chose, non en fonction des nécessités, mais en fonction des possibilités financières du client. Fallait donc tenir ces 3 semaines. j'avais artificiellement découpé le cours, allant jusqu'à évoquer Manissa, anciennement Magnésie, sous la forme francisée, qui est une ville de Turquie, préfecture de la province du même nom. Elle est placée sur le site de l'antique Magnésie de Sipile, où le général romain Scipion à l'Asiatique a battu le roi Séleucide Antiochos III vers 190 ans avant Jésus-Christ. Avantage. Le pays était plus ou moins arabe, turc pour être précis. Mais on ne va pas chipoter. Premier souci, les mercenaires qui avaient été formés par l'armée française et avaient des années de pratique connaissaient le matériel bien mieux que moi. J'ai dû avoir une franche discussion avec le plus ancien afin qu'ils comprennent que nous étions là pour la même chose, pour l'argent. Ils ne m'ont plus ennuyé. Ils m'ont même informé que pour l'examen final, eux devraient être notés de 12 à 15 et les citoyens de 15 à 18. Les cours se terminaient à 13 heures et j'avais accès aux messes des officiers. On y mangeait toujours la même chose, des pâtes, sauce tomate et du poulet. Chaque fin de semaine, le jeudi vers midi, il y avait questions écrites. Curieusement, j'étais toujours appelé quelques minutes à l'extérieur et dès mon retour, les citoyens me rendaient leurs copies. Les mercenaires avaient ostensiblement plus de difficultés et attendaient quelques minutes avant de me les rendre. La plupart des citoyens étaient des paysans sans compétences en électromécanique. L'un d'eux avait même réussi à briser une vis en la dévissant dans l'autre sens. Tous les après-midi, j'allais visiter les environs jusqu'à une heure de route, soit le long du golfe Persique jusqu'à Greywau, en face de la belle île d'Abu el-Abiad, ou dans la même direction, Al-Dafra, sur la route de l'Arabie saoudite. Cette région est cultivée de place en place. Depuis Abu Dhabi, une route traversait le désert en direction d'Al-Ain, du côté des Émirats, et Al-Bouremi, du côté Oman. Bien qu'un peu inquiet, j'ai franchi le pont qui sépare les deux pays pour faire une incursion non autorisée. Heureusement, personne ne m'a contrôlé. J'ai juste pris le temps d'échanger un peu d'argent pour avoir des billets omanais. Le premier week-end, vendredi et samedi, j'ai erré dans Dubaï, la ville. Dans les années 80, elle était entourée d'immenses faubourgs de maisons sans étage, enserrés de claustras, avec des prés et des enclos pour les animaux. Une partie des faubourgs suivait la ligne sinueuse de Dubai Creek, espèce de ria où s'engouffrait la mer. Les hôtels modestes tenus par des Pakistanais n'avaient ni drap du dessus ni couverture. Pour un occidental, on rajoutait un drap du dessus. Il était très difficile de rencontrer des villageois. Ils se méfiaient des étrangers. En ville, les personnes que nous rencontrions étaient des étrangers, souvent des Palestiniens. Selon la Vox Populi, ils étaient moins nombreux depuis qu'il y avait eu une dispute entre Arafat et les princes locaux. On disait même qu'il y avait eu des scènes de chasse dans le désert. Les Palestiniens servant de gibier. Les Émiratis aiment la chasse et on ne prête qu'aux riches. Les Émiratis sont très riches. Pour circuler, j'empruntais les autoroutes très nombreuses et bien distribuées. Il fallait rester concentré, car les autoroutes pouvaient se couper à angle droit, avec ou sans feu. Des piétons, des Érythréens probablement, marchaient tout le long de l'autoroute pour ramasser les papiers gras et les détritus. Ils tiraient une poubelle sur roue, comme dans les rues de Paris, mais au milieu de nulle part, en plein désert. Ils étaient déposés le matin, puis récupérés le soir 10 ou 20 kilomètres plus loin, et repartait le lendemain pour un autre bout d'autoroute. Une des seules fois où j'ai pris un chemin de traverse, j'ai embarqué un autostoppeur chargé de paquets sur une route en ligne droite de plus de 10 km. Avec des collègues, ils travaillaient en plein champ, loin de tout. Ils disposaient de l'eau d'arrosage et le patron leur rendait visite une fois par semaine. Eux non plus n'avaient pas leurs papiers. Le second week-end, j'ai fait le tour complet des Émirats et dormi dans un hôtel nettement plus luxueux face au golfe d'Oman. Souvent le soir, je fréquentais des restaurants en dehors de celui de l'hôtel où je résidais. Il fallait choisir soit bien manger, soit avoir accès à l'alcool. Périodiquement, pendant que nous mangions, les serveurs s'alignaient de chaque côté de l'entrée en tenant chacun une grande plaque de contreplaqué. Pour dissimuler le passage vers les étages d'une personnalité accompagnée d'une ou plusieurs femmes. Et je reviens maintenant à la revue 21, dont je vous ai déjà présenté quelques articles assez originaux. Alors, si j'ai choisi un article de 21 aujourd'hui, c'est parce qu'il conforte, il illustre, il précise, il corrobore les souvenirs de notre globe-trotteur. Voilà, l'article s'appelle « Vous êtes servi ». Il est écrit par Jorge Leone. Tous les mois, des milliers de femmes indonésiennes partent travailler à l'étranger comme domestiques. Recrutées par des agences spécialisées, elles quittent leur famille pour plusieurs années. Isolées dans des pays qu'elles ne connaissent pas, elles sont à la merci de leurs employeurs. Le réalisateur Jorge Leone s'intéressait à la question depuis longtemps. Quand il a rencontré à Bruxelles une domestique qui venait de s'évader. Partie à deux reprises en 2009 pour l'Indonésie, il y a passé 4 mois. Les témoignages qu'il a recueillis et les situations qu'il a filmées sont éloquentes. La revue 21 a eu un coup de cœur pour ce beau travail documentaire produit par Dérive et diffusé par Arte Belgique. Aperçu en 10 plans, choisi par la dessinatrice Violaine Leroy et commenté par Jorge Leone. Mona et toutes les autres. En 2008 à Bruxelles, je rencontre Mona, une jeune fille de 20 ans, née en Indonésie, sur l'île de Java, arrivée en Belgique en compagnie de princesses émiraties. Elle s'est évadée de l'hôtel 5 étoiles où elle logeait avec ses maîtresses. La police a interpellé Mona dans la rue et recueilli son témoignage. Les princesses, accompagnées par une dizaine d'autres domestiques, sont alors arrêtées et entendues. Elles sont autorisées à quitter le territoire belge jusqu'à la tenue d'un procès qui, à ce jour, n'a pas encore eu lieu, nous dit Jorge Leone en 2012. Mona me raconte qu'elle a été recrutée par le biais d'une agence spécialisée de Jakarta, capitale indonésienne. Tout a été réglé par son intermédiaire, formation, passeport, billet d'avion. C'est aussi l'agence qui a trouvé l'employeur. Mona ignore le montant des frais qu'elle est censée rembourser à l'agence. Elle sait juste que son salaire est versé sur un compte en banque auquel a accès le directeur. Mona souhaite être reconnue comme victime de la traite des êtres humains. Nous sommes en Indonésie, dans la ville de Yogyakarta. Un centre de formation a accepté de nous ouvrir ses portes. Nous rencontrons Dani, une nouvelle recrue. L'agence, c'est l'une des règles, ne veut pas de cheveux longs. Dani est conduite chez le coiffeur avant de participer à une séance photo. Il y a deux types de photos, sans sourire, sur fond blanc, avec sourire sur fond rouge. L'image sur fond blanc est utilisée pour le passeport et les documents administratifs. La photo sur fond rouge, avec le sourire, sert à nourrir le catalogue qui sera adressé aux futurs employeurs. Après bien des hésitations, Dani accepte de faire ce que les Indonésiennes ont traditionnellement appris à ne jamais faire, sourire en montrant les dents. Le centre où nous filmons a des allures de pensionnat de jeunes filles. Il accueille en moyenne 80 futurs domestiques. À Jakarta, 500 femmes sont parfois entassées sur un étage. À leur arrivée, les jeunes femmes confient leur sort au directeur d'agence. Elles se retrouvent entre elles pendant quelques semaines à plusieurs mois. Les plus anciennes accueillent les nouvelles et les initient aux règles à respecter ou à contourner. Pendant leur formation, on leur apprend à nettoyer les surfaces, à utiliser les appareils ménagers, machines à laver, four à micro-ondes, etc., et à s'exprimer dans la langue de leur futur employeur. Le vocabulaire enseigné est ciblé. « Bien, madame, que puis-je faire pour vous, monsieur ?» La durée de leur séjour dans l'agence n'est pas liée à l'aptitude aux tâches domestiques. C'est le rapport à la soumission qui est mis à l'épreuve. Une femme part chez un employeur lorsque l'agence s'est assurée de sa docilité. Elles devront souvent travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant une durée de 3 ans. À l'agence de recrutement, Madame City reçoit une nouvelle arrivante. Elle l'informe de ses obligations et lui annonce que les frais liés à sa formation seront déduits de son futur salaire. Cette femme accepte de partir à l'étranger car elle refuse de voir sa fille grandir dans la précarité. Les enfants en bas âge sont souvent confiés aux grands-parents. Quand leur mère revient 3 ans plus tard, il est fréquent qu'ils ne la reconnaissent pas. En l'absence des épouses, les maris refont parfois leur vie. Les femmes sont conscientes des risques, mais elles se disent convaincues que leur sacrifice a un sens. Voici une lettre. Damas, Syrie, le 12 novembre. Père, mère, les nouvelles sont difficiles à raconter. Qu'avais-je donc imaginé? J'avais espéré être heureuse ici. Mes journées sont amies avec les larmes et mes rêves sont remplis de ciel couvert et sombre, de vent très fort qui m'emporte vers le bas. Il y a une machine à laver, mais je ne peux l'utiliser que quand mes mains saignent. J'ai conscience que ceci est en fait une épreuve de Dieu. Je ne voudrais faire qu'une année et je l'ai annoncé à mon employeur. Mais il s'est fâché et ses mots ont été les suivants. Je t'ai acheté, et si tu veux rentrer avant la fin de ton contrat, tu dois me rembourser l'argent que j'ai dépensé pour t'acheter. Cette lettre est l'une des 400 missives collectées par les amis de Wangi, une habitante d'Indramayu. Elles ont été envoyées par des femmes parties travailler à Taïwan et Singapour, mais surtout en Syrie, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi. Wangi a l'intention de distribuer les lettres dans les écoles afin de sensibiliser les adolescentes attirées par la promesse d'un travail. C'est Wang Yi qui lit les lettres dans le film. À l'image, on voit une nature morte, des objets domestiques. Les recruteurs, qu'on appelle aussi sponsors, sillonnent les villages afin de convaincre les femmes de servir à l'étranger. Ils sont payés à la pièce et touchent 1 million de roupies, un peu plus de 80 euros, par contrat. Le salaire mensuel d'un employé indonésien est de l'ordre de 800 000 roupies, c'est-à-dire 65 euros. La jeune fille que nous rencontrons ce jour-là veut partir pour rembourser les dettes d'un précédent contrat qui a mal tourné. Elle annonce qu'elle a accouché par césarienne, ce qui, selon les critères officiels, la rend inapte à ce type de travail pendant 2 ans. Abdi, le recruteur, lui conseille de mentir sur l'âge de son enfant. Les documents sont souvent trafiqués. Il faut avoir entre 18 et 40 ans pour partir servir à l'étranger. Mais de nombreuses jeunes filles quittent l'Indonésie pour la première fois à l'âge de 15 ans. Nous passons 3 mois dans le centre de formation. Les jeunes femmes nous font part de leurs rêves et de leurs espoirs pour l'avenir. Elles nous confient aussi leur ennui. Chaque jour, il est question d'apprendre à nourrir et langer des poupées en plastique, à trier le linge sale, à vider la machine à laver, à appuyer sur les boutons stop, start, wash. Certaines femmes sont dans le centre depuis 1 an et n'ont pas encore reçu une seule proposition d'engagement. Quelques-unes envisagent de quitter les lieux, mais les sponsors veillent. Leur commission est en jeu. Pour convaincre, ils brandissent l'argument des frais à rembourser. Le temps passe, les dettes et les doutes s'accumulent. Le directeur a annoncé des départs pour l'étranger. Les personnes concernées sont réunies autour d'Intan, leur formatrice principale, qui leur lit le contrat. Interdiction d'inviter qui que ce soit. Interdiction de réclamer un seul jour de congé pendant 3 ans. La formatrice avertit aussi les partantes. Votre cœur est ici. L'homme que vous aimez est ici. Il ne vous laissera pas aller. Là-bas, on fera de vous ce qu'on voudra. Mais ensuite, on vous laissera tomber. Certaines femmes savent de quoi parle Intan. Elles sont déjà parties une première fois. Elles se souviennent de ce qu'elles ont appris ici, en boucle. Si le cœur de la bonne est mauvais, le cœur du maître sera mauvais. Elles espèrent que cette fois, leur cœur sera à la hauteur. Madame City vérifie le contenu de toutes les valises. Les téléphones portables sont proscrits et il est interdit d'emporter des vêtements trop sexy. Les partantes dissimulent parfois un téléphone dans un étui à savon ou y cachent un Coran. Ces entorses aux règles renforcent la complicité des femmes entre elles. C'est une forme de revanche ludique. Dans quelques heures, elles quitteront le centre et ne reverront probablement plus leurs compagnes. Les migrantes à des fins domestiques sont souvent envoyées seules dans la famille qui les embauche. Leur isolement les rend vulnérables. À Taïwan, où la vague migratoire est particulièrement importante, les domestiques autorisés à sortir se retrouvent dans les parcs ou les squares. Elles y apprennent à se fédérer, à défendre leurs droits et échappent ainsi à l'invisibilité. Nous accompagnons Oumi à l'aéroport. Elle en est à son 3e départ et va rejoindre un maître à Abu Dhabi. Ses précédents voyages se sont soldés par des échecs. L'argent envoyé à sa famille pour construire une maison et monter un commerce a été dilapidé par un mari joueur qui vient de la quitter pour une femme plus jeune. Oumi est déterminée à se battre. Elle sait qu'elle postulera à nouveau, qu'elle repartira encore pour éponger les dettes et éduquer les enfants. À l'enregistrement des bagages, d'autres groupes de femmes patientent. J'apprends qu'elles sont 35 000 à quitter chaque mois l'Indonésie pour servir d'autres foyers. De retour à Bruxelles, j'invite Mona afin de lui montrer les images ramenées de son pays. Après avoir vu le film, elle me fait part de son sentiment. Ces femmes, c'est moi. Eh bien, nous partons en Guyane. Chaude, verte et humide, c'est la Guyane. En Guyane, dans les années 80, la grande affaire était le CNES, avec les lancements de la fusée Ariane. Depuis le lanceur de fusée Diamant, on ne parlait déjà plus de tir, mais de lancement, ça fait plus chic. Il fallait civiliser, guyaniser. Civiliser pour faire oublier les origines militaires du système, guyaniser pour économiser les frais d'expatriation. On sait que les expats perçoivent une indemnité d'éloignement conséquente. Les idées les plus intéressantes ont parfois des origines triviales. Il y avait trois zones principales. Le Centre Spatial Guyanais, le CSG, concentrant la logistique, l'administration et les services techniques. Ariane Espace. C'est ainsi que nous appelions le site de lancement, avec son dôme bunker et son pas de tir, non souvenir des débuts du CSG. Et enfin, une zone vit en bord de mer, avec hôtels, pavillons et petits centres commerciaux. De Kourou à Sénamari, tout était Ariane Espace. Habitations, usines électriques, hôtels. Après avoir quitté la route principale qui va de Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni et au-delà, puis laissé sur la gauche la base de la Légion et sur la droite le village Saramaka, nous arrivions aux Roches où nous étions logés à l'hôtel. Les Saramaka sont les descendants d'esclaves d'origine africaine appelés nègres-marrons. Un noir en costume dans une belle voiture, c'est un créole. En bleu, dans une 4L, c'est un Saramaka. Les Saramaka habitent un pays ignoré des cartographes, car à cheval sur l'arrière-pays de la Guyane, du Suriname et du Guyana. Loin des côtes, car les anciens esclaves se méfient des côtes. Le village Saramaka était installé juste à côté du vieux village de Kourou. Il était séparé de notre zone d'habitation par un pré-pris, c'est-à-dire un marais. Quelques Indiens cohabitaient avec les Saramaka. Bel hôtel de bord de mer. Dommage, la mer était un peu jaunasse du fait des variations de l'Amazone et du transport des sédiments. Plage de sable blanc, piscine, luxe. L'hôtel était géré par le CSG. En dehors des périodes de lancement, cet hôtel était ce qui se faisait de mieux. Chambres individuelles, nombreuses salles de jeu, restauration collective, pas luxueuse, mais nous étions jeunes. En période de lancement, changement du tout au tout. Le CSG exigeait que nous nous regroupions à deux ou trois par chambre. Accès au restaurant compliqué. Ajoutez à cela le regard méprisant des parigots qui ne venaient que pour un lancement, nous écrasant de leur mépris. non à cause de leurs compétences, mais parce que, près de la tête de la société, ils se prenaient pour des cerveaux. Je peux me vanter d'avoir mis fin, en partie, à cette ségrégation. J'ai refusé de laisser ma chambre. Je n'étais pas seule à protester. Et avant que la révolte ne s'étende, l'hôtel a dû se débrouiller. Un lancement était composé de plusieurs séquences. La pose du premier étage, ça dure une semaine. La pose du second étage, une semaine. Une séquence d'essai de chargement des ergols, qui sont les carburants du lanceur spatial. Une séance de mise au point et la pose du troisième étage. La fusée était fixée sur sa base par d'énormes crochets et retenue par deux bras mécaniques. Puis le grand show, c'était l'essai de fonctionnement de cette première partie, qui pouvait se conclure par un grand manchot, si l'un des bras ne s'ouvrait pas. Après analyse du grand show, c'était la pose de la charge utile, puis la fermeture de la coiffe, et enfin le lancement. À ce moment, c'en était terminé pour les Parisiens et pour les représentants du client. Les permanents remettaient tout en ordre et procédaient à la partie réellement la plus délicate. Pour un lancement, tout était prévu d'avance et programmé. Bon, alors là, petite parenthèse, on peut sauter un paragraphe. Sauf pour les praticiens fanas du graphique de Gantt, qui se reconnaîtront et qui pourront se régaler sur la page de podcast. Je confesse que j'avais étudié ça dans le temps, du point de vue strictement administratif, ce qui, n'étant pas sur le terrain, peut rendre mes explications un peu approximatives. Donc, en cas de problème, les Parisiens prenaient un air important et contactaient Paris ou leur maison mère respective pour savoir ce qu'ils devaient faire. Pour la revalidation, on connaissait les points stratégiques à traiter, mais pas leur contenu. La fin de la revalidation se concluait, elle aussi, en un spectacle. Une année, un peu avant Noël, catastrophe. Échec du show. Les crochets ne s'ouvrent pas. Nous avions perdu une semaine. Grande réunion des Parisiens et des clients. Et plus le temps de préparer le lancement avant Noël. Et ça pour les clients, mais surtout pour les Parisiens, c'était pas possible. Pendant les intenses conciliabules avec Paris, un responsable local a proposé de monter les deux premiers étages le même jour. Mais ça, comme l'a dit un responsable planning de Paris, c'était pas possible. Pendant ce temps, le responsable local et un technicien de la logistique mouvement ont concocté un planning qui permettait de poser les deux premiers étages le même jour. Le Parisien, dont les compétences planning étaient plutôt minces, a présenté ce planning. Les responsables étaient ravis. On économisait un pognon de dingue et tous profitaient de la bûche de Noël. Le logisticien et moi n'avons eu que la satisfaction du soutien. Il y eut parfois quelques autres soucis. Un matin, faisant la route depuis Cayenne, j'ai aperçu au-dessus des Prés-Prés, il y a beaucoup de marais en Guyane, j'ai aperçu un immense nuage vert de gris, sale. En arrivant sur le site, tout était rentré dans l'ordre. On s'est aperçu à cette occasion que l'un des techniciens en faisait beaucoup plus sans le revendiquer. C'était un Saramaka. Spécialiste des ergols, il était chargé de faire un circuit de vérification chaque jour. Il ouvrait ou fermait des vannes pour s'assurer qu'elles restaient fonctionnelles et en fonction de critères techniques, température, pression, etc. Il utilisait une fiche technique jamais mise à jour. Lorsqu'au bout de quelques années de bons et services, il a pris des congés. Le technicien novice qui l'a remplacé a suivi scrupuleusement sa fiche technique et a raté quelques vannes. Alors c'est des vannes de plomberie spatiale, je précise, c'est pas des blagounettes de comptoir. L'un des ergols a dépoté, c'est-à-dire qu'il est sorti de ses réservoirs. Le nuage vert a dû rencontrer la pluie au-dessus de la forêt et l'acide a chu sur la canopée, qui est l'ensemble des branches hautes et de leur feuillage, qui font une couverture continue, coiffant la forêt et accueillant toute une multitude d'organismes vivants. Quelques orpailleurs ont dû être étonnés de recevoir une vraie pluie acide. L'incident aurait pu tourner à la catastrophe. Nous avons eu une coupure électrique totale. L'usine électrique du grand port de commerce de Desgrattes-des-Cannes était double et deux réseaux alimentaient le site de lancement. En secours, nous avions trois énormes groupes électrogènes, deux essence et un diesel. Chaque groupe suffisait pour alimenter le site. Enfin, en ultime recours, nous avions un jeu de batterie qui maintenait pendant environ un quart d'heure les vannes électriques dans leur position. Au-delà, c'était le chaos. Lorsque le responsable du site ce jour-là a réussi à faire revenir l'électricité, ça faisait plus de 20 minutes que nous étions sur batterie. Ce qui s'était passé pour la double panne du réseau, nous n'avons jamais su. Pour les groupes électrogènes, l'un des groupes essence était en maintenance. Pour le deuxième, le technicien s'était rendu compte que la batterie était faiblarde, alors il l'avait débranchée pour la mettre en charge pendant qu'il partait manger. Le groupe diesel était le plus puissant, mais mettait quelques secondes à atteindre sa puissance de fonctionnement et la consommation instantanée au démarrage était trop importante. Il disjonctait immédiatement. Par chance, le responsable rapatrié en urgence n'a pas hésité à couper l'alimentation de la ventilation de la tour, ce qui était impensable et totalement interdit. Il a pu rebrancher un à un les circuits et ainsi relancer la machine. La durée de vie des batteries était passée depuis plusieurs minutes. La tour devait être maintenue sous pression et ventilée pour combattre la température et l'humidité, et aussi pour assainir l'air. Une tempête de sable au Sahara, et quelques jours après, tout était recouvert d'une fine couche de sable rougeâtre. Pendant les périodes de lancement, nous pouvions avoir des temps de travail d'une amplitude à faire exploser l'inspection du travail. Pour ceux qui habitaient Cayenne, ça pouvait faire facilement 14 heures de travail dans une journée, en plus des trajets. Il y a eu quelques accidents au retour. Les loisirs étaient les loisirs traditionnels du bord de mer, sauf pour la natation et la pêche en mer. L'eau était trouble. Il y avait la chasse, mais c'était l'affaire de quelques viandards. Il y avait les papillons. Même les plus malhabiles pouvaient ramener des papillons multicolores et les si fameux morphos, ces merveilleux papillons géants, bleus électriques, que l'on peut imaginer en rapprochant ses deux mains pour un adulte et en superposant les pouces pour représenter le corps du papillon. Le scandale écologique est que ces ailes magiques servent de matériaux pour découper dedans des motifs divers et variés vendus dans les boutiques de souvenirs de Cayenne. Notre conscience écolo n'était pas encore affirmée. Souvent, le simple fait de se promener à pied ou en voiture réservait des surprises. Un énorme serpent, plus de 3 mètres, allongé en travers de la route. Il n'était pas mort, mais sonné, probablement victime d'un choc avec une voiture. Gros comme ma cuisse, mais bien plus musclé. Un petit serpent corail, au milieu d'un sentier. Un plaid jeté sur lui semble un abri. Un paresseux, perdu au milieu de la route. Il s'est accroché à la roue de la 4L. Lui, il a 4 bras et des griffes impressionnantes. Il m'a fallu longtemps pour le décrocher et libérer ma 4L en le libérant. Les chasseurs étaient parfois surpris, surtout lors des chasses de nuit. Il fallait repérer les yeux brillants dans la nuit. 2 yeux, très écartés, ça pouvait être un jaguar. 2 balles pour assurer le coup, et vous retrouviez dans la lumière un crapaud buffle éparpillé. La faune était variée, mais peu nombreuse, souvent nocturne. En dehors des singes à tête de chien qui nous balançaient leurs excréments pour nous chasser, il y avait surtout les moustiques, guêpes et autres mouches maçonnes, d'où la nécessité de toujours porter un chapeau. Il est difficile de passer pour un baroudeur quand le seul adversaire à affronter est un hyménoptère. Alors, on a magnifié le rôle des piranhas, qui ne sont pas des poissons de cœur, mais qui sont délicieux à la poêle. Nous n'étions malheureusement pas préparés à jouir du charme de la forêt. Le tourisme était peu développé à l'époque. Les informations sur la faune et la flore étaient réduites. Nous ignorions jusqu'à la présence des lamantins, pourtant très gros mammifères marins, à l'embouchure du fleuve Kourou. Un prof affecté en Guyane promène sa famille dans une pirogue à moteur et leur fait visiter la mangrove, ce bord de mer où des arbres, en mêlant leurs racines aériennes avec des lianes voluptueuses, poussent dans cette eau salée. Au milieu d'un chenal, le moteur tombe en panne. Ils font demi-tour et repartent à la rame. Un jaguar, goguenard, se pourlèche sur une branche en travers du chenal. Solution pour passer, jeter Médor à l'eau. Le félin n'est pas exigeant. La famille a beaucoup pleuré. Il y a des jaguars en Guyane, mais il est très rare d'en voir. Ils ont eu de la chance, mais sous le coup de l'émotion, ils n'ont même pas fait une photo. Nous avions très peu de connaissances concernant le pays, et pour ce qui est des Amérindiens, c'était encore pire. Nous connaissions les noms Galibis et savions exister les Émerillons, les Palécours et d'autres. Un voyage au Suriname m'a permis d'un peu mieux les connaître, car à Paramaribo existait un marché curieux. Chaque peuplade avait son étage, un pour les Indiens, un pour les Marrons et un pour le Moyen-Orient. Les colons avaient importé des colonisés d'ailleurs. Le commerce est un bon moyen de connaissance. Nous connaissions un peu les Galibis car ils avaient un village près de la mer à l'extrémité du Maroni, là où les tortues luttes viennent pondre. C'est impressionnant de voir ces bêtes d'une demi-tonne, d'un mètre et demi, suées et ahannées pendant près de 2 heures pour monter sur la plage, creuser le trou où elles vont pondre une cinquantaine d'œufs, les couvrir de sable, puis dissimuler le nid avant de retourner à la mer. On ne s'en rend pas compte, mais la tortue ruse et fait des détours pour dissimuler son nid. Les tortues peuvent revenir pondre 20 fois dans la même saison et pondre un millier d'œufs. 2 mois après l'éclosion, les bébés tortues mesurent 7 à 8 cm. Et pèsent seulement quelques dizaines de grammes, malgré leurs nageoires démesurées. Les sexes vont dépendre de la température d'incubation. En dessous de 30 degrés, c'est un mélange. Au-dessus, il n'y a que des femelles. Lors de l'une de nos visites, nous avons assisté aux obsèques traditionnelles d'un Indien Galibi. Réglementairement, les Indiens sont catholiques, et les obsèques se déroulent comme en métropole. 2 ou 3 jours après cette partie officielle, a lieu la véritable cérémonie. L'ensemble du village est réuni. Nous étions là, nous avons été invités. Les bols de cachéri circulaient à volonté. Il y avait 2 ou 3 bols pour tout le monde. Nous étions assis sur des chaises ou sur des troncs, et les bols passaient de main en main. Cette boisson, peu alcoolisée, est âpre et vaguement mousseuse. Le nombre de présents indique l'importance du personnage. Ce soir-là, il y avait la veuve, le chef du village, sa parentèle et tous les autres. La parole circulait, parfois triste, parfois gaie. Selon notre voisin indien, qui commentait à voix basse, à notre bénéfice, chacun racontait les frasques du défunt. Ce pouvait être un gaillard, car de nombreuses histoires crues ont couru. Et régulièrement, la veuve se mettait à rire, à pleurer ou à invectiver une salope. Des chants détendaient l'atmosphère. Pendant ce temps, les enfants s'amusaient au milieu des adultes. La route de Cayenne à Saint-Laurent, la route coloniale numéro 1, a été construite par des bagnards. On dit qu'il y a un cadavre sous chaque mètre de route, ce qui rappelle et ou confirme les contes de la pose des rails de la ligne Congo-Océan, au Congo bien entendu. Avant cette construction, Sinamari, Irakoubo, Mana, Saint-Laurent-du-Maroni, comme la plupart des villages, n'étaient accessibles que par les fleuves. Aujourd'hui, la nationale reprend en grande partie la route coloniale, mais elle va directement à Saint-Laurent, sans passer par le village de Mana. Sinamari, grande commune, enrichie par la découverte d'or. Irakoubo et son église, totalement décorée par un bagnard, sur plus de 500 mètres carrés. L'intérieur de l'église est peint de fresques naïves. Aujourd'hui, on connaît le nom de cet artiste, le forçat Pierre Huguet. Mana est une commune curieuse et étendue qui s'enfonce très profondément dans la Guyane. Pour nous, c'était le pays des galibis et celui des tortues luttes. Dans les années 90, un bac permettait encore de traverser la Mana. De l'autre côté de Cayenne, la commune de Regina, comme celle de Mana, s'enfonce encore plus profondément dans le pays, puisqu'elle dépasse Maripasoula, Saül et Canopy, communes les plus éloignées de la côte. En 1977, les Hmong seront installés à cacao, officiellement pour la production agricole. En réalité, pour diluer les populations indigènes et contrer les velléités indépendantistes. Habitude très française de déplacer des populations pour casser les velléités d'indépendance. Il sera procédé de la même façon en amenant des Polynésiens en Nouvelle-Calédonie ou en important en métropole des populations jeunes des Antilles ou de la Réunion, souvent sans trop demander leur avis. Je vous en ai déjà parlé à propos des enfants de la Creuse. Les Hmong seront installés sur des terres spoliées aux Indiens. Les Hmong n'y sont pour rien. L'État aidé de l'Église, dans ce cas, a récupéré ces terres sans l'assentiment éclairé des autochtones, en procédant comme d'habitude en Guyane, en Polynésie, etc., où il n'y avait pas de propriété individuelle, mais des propriétés collectives. Chaque membre de la communauté était propriétaire de l'ensemble. Il suffisait d'en circonvenir un, de lui faire signer un document qu'en général il ne savait pas lire, et l'affaire était dans le sac. Si nécessaire, on faisait intervenir un curé dans lequel tous avaient confiance. la première génération s'est courageusement investie dans l'agriculture et dans l'artisanat traditionnel textile avec ses superbes broderies multicolores. Les suivantes générations étaient mieux éduquées et ont compris que le commerce était plus lucratif et bien moins éprouvant, et que les Surinamiens, moins soutenus par leur État que les créoles, avaient à cœur de fournir légumes et autres produits de la ferme. Aujourd'hui, une partie des mangues est revenue vers la métropole, dans la région de Nîmes. Tous ces peuples ont une langue, non enseignée évidemment, dans les années 80 et 90. Chaque communauté parle au moins sa langue et une langue vernaculaire. Ces peuples ne respectent pas les frontières étatiques, même si l'État français, police et justice confondues, n'a de cesse de tenter de faire respecter ses limites théoriques plus proches de ce que souhaite Bruxelles que de ce que souhaitent les autochtones. De même qu'en Polynésie, les règles bruxelloises ont fait disparaître les trucks, les mêmes autorités entravent la circulation Brésil-Guyane et Suriname-Guyane, comme si ces libertés, toutes relatives, menaçaient l'Europe. Pour les autochtones guyanais, les fleuves Maroni ou Oyapock sont des voies de communication interne à des communautés très anciennes, vivant de part et d'autre sur les fleuves. Les fleuves sont des voies de communication pour les autochtones et des frontières pour les élus. Deux mondes différents. Pour communiquer, les Amérindiens et les nègres marrons utilisent un pidgin évolutif et véhiculaire. On y trouve des mots d'origine portugaise, anglaise, africaine, amérindienne. Voir les travaux d'Isabelle Léglise au CNRS, où l'on trouve ceci. Les langues parlées en Guyane, une extraordinaire diversité, un casse-tête pour les institutions, 40 langues, dont la moitié parlée par au moins 1% de la population. Langues amérindiennes, Arawak, 150 locuteurs, Emerillon, 200 locuteurs, Galibi, aujourd'hui Kalina, 2000 locuteurs, Palikour, 600, Wayana, 200, les créoles des nègres marrons, ces deux dernières séries avec le portugais du Brésil, le néerlandais du Suriname, l'anglais du Guyana, le Hmong, le chinois, etc. La Guyane est une terre de forte immigration. On trouvera même des locuteurs parlant les langues du Moyen-Orient quand ils sont d'immigration surinamienne. Les nombres donnés sont probablement sous-estimés et ne concernent que les locuteurs identifiés du côté français. Le pidgin, utilisé par les peuples de la forêt et des fleuves, n'utilise curieusement aucun mot français. Curieux. Cette langue d'échange s'appuie sur les communautés et sur la vie autour des fleuves. Il est très regrettable que cette abondance ne soit pas considérée comme richesse par notre État jacobin. Ces dernières années, probablement aidées par les Amérindiens du Nord américain, les Indiens d'Amérique du Sud et donc de Guyane ont enfin décidé de se regrouper et de défendre leur civilisation. Ils sauveront peut-être une petite part de cette richesse, la langue et les savoirs concernant la forêt, mais aussi les fleuves et la mer. Je ne parle pas que de la faune et la flore, ce qui serait déjà beaucoup, mais la trace des peuples méconnus. Dans la forêt surinamienne, des Indiens ont indiqué des grottes couvertes de dessins datant de plus de 5000 ans. Je renvoie donc à la page de podcast Les amateurs de graphique de Gantt. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à un prochain voyage. Merci, à bientôt.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier. Même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds. Et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen.